Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver. L'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Ça y est, nous avons sorti notre smoking de la naphtaline.
Ouais.
Nous sommes à Cannes.
C'est bien, il vous va bien. J'aime beaucoup votre nœud papillon.
Merci. Le vôtre est un peu de travers, vous permettez?
Oui.
Je vous l'arrange, voilà, c'est mieux. Oui. Guillaume, un petit coup de peigne. Non, ça ne sera pas nécessaire.
Non, ce n'est pas nécessaire. Non.
C'est pas la peine.
Donc, j'ai mis un chapeau noir, vous voyez.
Ça vous va très bien.
Un peu brillant, merci.
Nous serons donc sur la croisette, près des marches, près du grand Auditorium Lumière. Vous avez entendu le flash info à l'instant, c'est Vin Diesel qui va faire le bonheur de tous les festivaliers.
Il n'est pas passé à l'électrique, Vin Diesel?
Non, il a fêté les 25 ans de Fast and Furious.
Ah oui,
ouais.
Et ça, c'est un film d'auteur.
Ils en sont à combien, là? 10, je crois. 10.
Sans compter les... comment dit-on?
Oui, les dérivés.
Les spin-offs. Sans compter des spin-offs.
Ouais.
Donc, vous allez quand même nous conseiller quelques films à voir à la télé, Laurent.
Oui. Écoutez, là, ça, c'est l'effet Cannes, parce qu'il y a 7 films. Et que du bon. Voilà, semaine assez Byzance. Hein. Vous avez passé de bonnes soirées de cinéma à la télévision, donc il y aura 7 films. Et certains soirs, il faudra faire des choix. Voilà.
Oula!
Des sacrifices, comme faisaient les Incas d'ailleurs.
Des choix de Cornélie.
Ouais, il y a les replays maintenant, toutes ces choses-là, pour voir les films en décalé, tout ça.
Oui. Enfin, bon. Mais néanmoins, vous allez soumettre quelques propositions qui vont devoir être débattues, peut-être en famille ou pas, en couple, ou si
exactement.
On est tout seul, à savoir devant quoi on se met.
Exactement.
Et puis vous allez avoir un petit conseil à nous donner, non, quand même, de lecture peut-être?
Un petit conseil de lecture sur le festival de Cannes.
De Cannes, hein.
Non, pas de Cagne. Hein.
C'est pas la même chose. On est impatients d'avoir ce conseil de lecture. Vous avez entendu sa voix, notre spécialiste de la mécanique cinématographique est là. Et c'est Guillaume Sidom. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir les maris, bonsoir à tous et à toutes.
Faites-nous rêver, dites-nous ce qui va monter sur le plateau de votre atelier pour être ausculté.
Justement, à l'occasion du Festival de Cannes, je vous propose ce soir un chef-d'œuvre d'un suspense d'une formidable intensité, Grand Prix du jury en 1953, l'ancêtre de la Palme d'Or.
Oui.
Ce sera à découvrir sur France.tv.
Ah, ben vous aussi, vous nous envoyez sur le petit écran qui devient grand suivant ce dont on dispose.
Oui, la taille des écrans maintenant est assez
petite. Oui, c'est vrai. On va retrouver...
J'aurais un conseil Blu-ray tout chaud. Il sort ce vendredi aux éditions Rémini.
Eh bien, nous parlerons de tout ça tout à l'heure, peut-être après le conseil de lecture. N'est-ce pas?
Oui, on va faire comme ça, oui.
On fera comme ça.
Je passerai le ballon.
Le tribunal des séries sera ouvert ce soir avec notre homme de loi, grand spécialiste des séries, évidemment, Grégory Combe, va nous parler de la seconde vie, justement, des séries dont on ne parle plus maintenant, ou dont on parle moins, mais justement, qui connaissent un regain d'intérêt grâce à TikTok. Eh oui, TikTok. Et donc, à cette occasion, Grégory Combe va revenir sur Lost, la fameuse série qui avait fait couler beaucoup d'encre et qui avait beaucoup plu, en particulier sa première saison.
Oui,
moins ce qu'il était advenu du reste.
Ça partait un peu...
Vrai. Ça partait un petit peu bizarre. Mais de toute façon, on va laisser Grégory Combe sans se charger de nous en parler. C'est pour tout à l'heure dans son tribunal des séries. Il y aura des reprises aussi sur le grand écran. Et puis, on aura des coups de cœur parce qu'on a toujours des films, des manifestations qu'on a envie que vous alliez voir ou que vous alliez participer à ces manifestations, justement, de notre part. Et puis, nous allons donner un petit coup de fil. L'ouvreuse va donner un coup de fil à Fred Saval. Et qui est Fred Saval? Eh bien, un festivalier de Cannes et qui est content d'être là-bas sur la croisette. Et il va nous raconter tout ça. Simple, efficace et heureux, en tout cas pour lui, et d'être de baigner dans cette ambiance et de pouvoir voir des films, ceux dont on parle beaucoup dans les médias, comme le nôtre. On est ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée avec nous. Cette musique qui est associée, et depuis un petit moment maintenant, c'est depuis 1990, associée au Festival de Cannes, à la montée des marches et aussi à la petite bande-annonce qui passe avant la projection de chacun des films de la sélection officielle. Dans cette bande-annonce, on voit les marches de Cannes, des marches de Cannes stylisées qui partent sous l'eau et qui sortent de l'eau, et on comprend pourquoi. Bien parce que cette musique, c'est celle de Camille Saint-Saëns qu'il avait composé pour le Carnaval des animaux, et en particulier, c'était le thème de l'aquarium. Tout coïncide, dites-moi, tout est fait exprès. Guillaume Sidom, vous avez eu la chance de voir en direct, la chance d'autres qui sont restés chez eux, mais vous étiez dans un cinéma pour voir la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, qui en est à sa 79e édition.
Oui, une très belle cérémonie, sobre, avec un hommage, on va en parler sans doute, à Peter Jackson.
C'était Aïda Ara,
oui,
qui était la maîtresse de cérémonie.
Oui, qui s'est bien débrouillée, je trouve.
Et qu'on verra dans un film qui est présenté à Cannes hors compétition, L'objet du délit d'Agnès Jaoui. Et alors vous disiez justement que elle a été brillante à faire quelques remarques sur la façon dont se comportait la presse.
Tout à fait.
La presse n'a pas été épargnée. Et aussi d'autres petits clins d'œil à quelques films également, avant d'arriver à le moment central, clé de cette cérémonie d'ouverture, à savoir la remise de la Palme d'Or d'honneur
à Peter Jackson,
qui, on l'a compris, j'avais pas remarqué, je ne le savais pas, a été anobli par la reine, puisque c'est Sir Peter Jackson. Le réalisateur néo-zélandais qu'on connaît beaucoup pour ses deux trilogies.
Oui, et remise par son acteur fétiche.
Oui, qui était Frodon dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, à savoir Elijah Wood. Il n'a pas bougé. Non. On n'a pas l'impression que les années soient passées. Entre l'image qu'on avait de lui il y a 25 ans, c'était en 2001, Le Seigneur des Anneaux, un gamin, quoi. Il allait peut-être les tempes un peu blanchies. Non, le visage pas du tout, et une moustache qui change. Mais
l'anneau préserve peut-être.
Oui, ça doit être ça. D'ailleurs, ouais. Peter Jackson n'a pas manqué de le lui faire remarquer. Justement. Et puis,
alors après, il faut préciser que c'est court quand même, la cérémonie de l'ouverture.
C'est 30 minutes, parce qu'après, avant la remise de la Palme d'Or d'honneur, il faut accueillir le jury et son président.
Vous dites la Palme d'Or d'honneur.
La Palme d'Or d'honneur, oui.
Ah oui, tout à fait.
Oui, c'était une Palme d'Or d'honneur.
Oui, tout à fait.
Palme d'Or d'honneur.
Un petit mot sur le jury, du coup.
Oui. Oui. Alors, présidé par Park Chan-wook, il a une particularité que vous allez sans doute relever, Laurent, à savoir qu'il n'y a pas de français.
Alors c'est vrai que j'ai regardé les membres du jury, j'en ai relevé quelques-uns, les noms les plus connus, mais Chloé Zhao,
Chloé Zhao, elle est chinoise.
Ah ben oui, elle est chinoise, exact. Oui. Isaac de Bankole.
Il est pas français non plus.
D'accord. Et demi-mot, non.
Non.
Pas demi-française, demi-mot, non.
Non.
C'est vrai qu'il n'y a pas de français.
Mais pas de français, non.
Par contre, le
comme à Roland Garros au premier tour.
Voilà, c'est ça.
Plus français.
C'est ça. Éteignez la télé.
Donc Park Chan-wook, qui est le président, la première fois que le président est coréen.
Oui, c'est une
première.
Corée du Sud, bien sûr.
Oui. Préciser, oui, parce que
Le jour où il y en aura la Corée du Nord, alors là, il faudra le marquer.
On ne sera peut-être plus là.
Lourde pierre.
Il faudrait qu'il y ait des cinéastes là-bas.
Oui, et du cinéma.
Après quoi, on a eu le passage musical qui, pour faire plaisir à Peter Jackson, c'était Théodora qui s'en est remarquablement bien sortie. Elle n'était pas toute seule, Théodora, était-elle avec la guitariste au clou, et ils ont interprété, parce que Peter Jackson avait fait un documentaire sur les Beatles, un documentaire de 9 heures, elles ont interprété Get Back des Beatles, et puis la plus belle surprise quand même a été Gong Li et Jane Fonda, qui sont venues toutes les deux, deux très grandes actrices stars, hein, pour déclarer l'ouverture officielle du Festival de Cannes. D'ailleurs, je reprends les propos de Jane Fonda, elle l'a dit, et puis alors... Elle l'a vécu. Le cinéma est un acte de résistance. Nous racontons les histoires et les histoires créent la civilisation. Alors que le courage de raconter prime, célébrons l'audace, la liberté et l'acte féroce de la création.
On pourrait peut-être parler de l'affiche aussi du festival. Thelma et Louise.
Thelma et Louise. Ridley Scott.
Très belle affiche.
Très belle affiche. Oui.
Ouais. Ça fait quelque temps maintenant que les affiches sont choisies parmi des affiches de films qui ont marqué le cinéma. Celui-ci en fait partie. Je parle de Thelma et Louise. Voilà, on a fait un tour rapide de ce qui s'était passé. On dira un mot sur les films attendus. Mais pour le moment, eh bien, la projection va commencer tout de suite, n'est-ce pas, Guillaume Sidom, ça a trait avec ce que vous allez nous raconter.
Tu parles d'une terreur. Il est joli, Al Capone. Il est vrai. Le palu. Je t'en foutrais, moi, du palu, tiens. Tu veux que je te dise? Tu crapes de peur, t'es une gonzesse.
Ah, je te défends de dire ça, hein, si t'étais passé par où je suis passé.
Ah non, dis tes histoires pelopes, hein. T'as peut-être été un homme dans le temps, je dis pas, mais ça remonte à ma grand-mère, ça.
Et ils sont ensemble dans une cabine de camion. On entend vaguement que ça roule. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils s'entendent pas beaucoup, les deux qui sont dans le camion. Et vous allez nous expliquer pourquoi, Guillaume Sidom.
Oui, ils ne s'entendent pas beaucoup. Pour Le Salaire de la Peur, film signé Henri-Georges Clouzot, sorti en 1953, datation du roman éponyme de Georges Arnaud, grand prix de la 6e édition du Festival de Cannes cette même année, qui est l'équivalent donc de la Palme d'Or, hein, jusqu'en 1954. Prix d'interprétation, hein, masculine pour Charles Vanel. Et donc au casting avec ce dernier et Yves Montand, un voyage, une épopée sur 60 km de pistes semée d'obstacles et d'épreuves où la moindre erreur de conduite sera fatale. Une folle tension durant tout le film, tension qui ne tient parfois qu'à un détail. C'est le génie de Clouzot. Un mouchoir, une cigarette, un thermos, je vais y revenir. Et tout peut partir en vrille au beau milieu d'un village perdu dans une contrée désertique parmi une population hétéroclite venue des quatre coins du monde. La chaleur est étouffante et accablante. Les hommes attendent, ils ne font rien, sinon guetter. C'est un étrange tableau qui se dresse devant nous. Avec ce groupe de parias qui semble être venu là, faute de mieux, égaré dans cette contrée perdue. Ils sont parfois débraillés, comme Mario, Yves Montand, ou plus distingués, comme Joe, Charles Vanel. Mais là, ils sont tous logés à la même enseigne, désœuvrés, acculés par le manque d'argent et d'opportunités. La caméra capte la chaleur, la boue, les animaux errants, la population indigène pauvre, les migrants venus fuir leur passé. Las Piedras est une ville fantôme, une prison à ciel ouvert, un enfer que chacun rêve donc de quitter. L'histoire, le pitch, en Amérique centrale, une compagnie pétrolière propose donc une grosse somme d'argent à qui acceptera de conduire deux camions chargés de nitroglycérine, le tout sur 500 km de piste afin d'éteindre un incendie dans un puits de pétrole. Quatre aventuriers sont choisis et entament donc un long voyage. Un long voyage et surtout très dangereux, un suspense inébranlable. Quatre personnages au bord du gouffre pour un thriller à couper le souffle et l'Amérique centrale reconstituée en Camargue. Le Salaire de la Peur, un grand voyage tragique, fatal, où sont mises à l'épreuve donc le courage, la solidarité, l'amitié. Clouzot nous montre un lieu où les bas instincts ressurgissent, où l'homme est presque revenu à l'état sauvage, où le concept de civilisation n'existe pratiquement pas. Pourtant, si ce décorum est bien peu flatteur et engageant, il ne s'agit que d'une porte d'entrée vers quelque chose d'encore plus sombre et dangereux. En effet, Le Salaire de la Peur, c'est un aller simple pour l'enfer. La crasse, la sueur, la poussière et le pétrole se mélangent ici aux confins du monde. La symbolique du puits de pétrole en feu est assez claire dans son intention. C'est l'image d'un feu permanent, d'un brasier représentant l'enfer, d'un but ultime où se consument tous les espoirs des hommes et donc leur quête de richesse.
L'enjeu, l'espoir, la peur et l'expérience sont autant de facteurs qui vont influer sur l'évolution des personnages et de leur entreprise.
Sur cette route, Clouzot veut se focaliser sur le danger, sur les hommes et sur leur but. Pas de musique, pas d'artifice. Clouzot démonte les véhicules en gros plan, accélérateur, compteur de levier de vitesse, embrayage, roue dans un nid de poule et au bord de l'abîme. Cette approche permet de concentrer le suspense au cœur des objets comme le thermos, le marteau ou la cigarette quand il s'agit de pulvériser un rocher au milieu du chemin. Le montage est millimétré précis. Il met en lumière les instants où tout peut basculer, se focalisant sur un ou des détails, donc, montrant que le succès de la mission et que la vie de ces hommes ne tient qu'à un fil. Ce schéma est notamment visible au détour de plusieurs séquences mémorables, comme la traversée de la Fondrière, le virage périlleux en montagne, la destruction du rocher et bien sûr, la traversée du lac de pétrole.
Le salaire de la peur est plein de symbolique.
Oui, comme cet oléoduc rompu d'où gicle le pétrole comme un membre ou une artère sectionnée d'où coule le sang. Le pétrole, cette inestimable source de richesse, est comme un liquide poisseux de la boue où l'on s'enlise et où on peut même se noyer. Le discours sur l'humanité et la cupidité est ici fort et éloquent, mais ce fond glaçant au constat grave et cynique s'associe à une forme des plus ingénieuses qui permet à Clouzot de prendre son spectateur en otage et qui l'oblige à endurer le calvaire des protagonistes du film. Le salaire de la peur et l'image d'une humanité perdue, égarée, qui se cherche et sacrifiée sur l'autel du profit. Thriller a coupé le souffle, hein, dont William Friedkin a fait un remake enthousiaste, le prodigieux Sorcerer en 1977. Le salaire de la peur est avec le corbeau le film le moins théâtral, le plus noir et le plus cruel d'Henri-Georges Clouzot. Une leçon de suspense de la part du réalisateur français à retrouver dès à présent donc sur France.tv dans le cadre de la collection Palme d'Or, à l'occasion donc de la 79e édition du Festival de Cannes, en Blu-ray et DVD chez Universal en version restaurée. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Georges Auric qui a composé la musique du film d'Henri-Georges Clouzot, Le salaire de la peur, avec cette connotation latino-américaine. Et oui, c'est censé se passer là-bas. Et sans plus attendre, nous retrouvons Fred Saval qui nous parle depuis la Croisette, à quelques encablures de cette magnifique promenade et surtout de ce qui s'y passe, c'est-à-dire le festival de Cannes. Bonsoir Fred Saval.
Bonsoir Louis-Marie.
Comment allez-vous ?
Impeccable, un bon début de festival. Je suis plutôt content parce que aujourd'hui j'ai vu 3 films et c'était plutôt un bon début, donc voilà, je suis déjà plutôt content que ça commence comme ça.
Alors, on est curieux parce que, voilà, pour une fois, on a un festivalier qui va nous parler de son expérience et de la façon dont il va voir les films et comment il va les voir. Là, vous dites que vous avez vu 3 films aujourd'hui. Quels sont vos critères de choix parmi les possibilités, les quelques centaines, et encore, je suis au-dessous de la réalité, centaines de films qui sont possibles à découvrir?
Voilà, en fait, à Cannes, il y a surtout 4 sélections, hein. 4 sélections principales, la sélection officielle, la semaine de la critique, la quinzaine des réalisateurs et un certain regard. Donc en fait, moi, je pioche un peu partout. J'ai une accréditation, qui me permet effectivement de réserver des séances. Et en fait, j'y vais un petit peu comme ça, un petit peu au hasard, la plupart du temps, pour découvrir des films dont je ne connais rien. je connais pas le réalisateur. C'est parfois les films japonais, parfois il y a des films pakistanais, il y a un petit peu tout. Moi j'y vais comme ça un petit peu au hasard en fait, et comme ça j'ai de belles découvertes. Et il y a aussi effectivement les grands noms, les réalisateurs que j'aime ou dont j'ai beaucoup entendu parler. Et là, effectivement, j'essaye de choper ces séances, qui sont forcément plus difficiles à avoir, du moment où c'est un grand réalisateur, effectivement, tout le monde se précipite pour avoir des places pour ces séances. Mais en fait, voilà, moi, je vais de la quinzaine à la semaine de la critique. J'essaye d'avoir aussi des séances dans la compétition officielle, forcément. Voilà, ça reste toujours presque, voilà, comme ça, un parcours semé de surprises, en fait, voilà.
Et la surprise, alors vous nous dites, vous allez comme ça, en fonction de votre disponibilité, la disponibilité qu'on a d'accès aux salles, c'est ça qui guide votre choix, entre autres. Vous en avez parlé un peu là, quand il y a des noms aussi, mais pour le reste.
En fait, on a un site pour réserver les places, c'est très très bien fait, depuis quelques années ça a changé, c'est beaucoup plus moderne. Et en fait, on se précipite à 7h du matin, 4 jours avant, pour choper effectivement le plus de films possible, le plus de films qui nous intéressent possible. Et parfois, on se retrouve à réserver pour des films, dont on ne sait rien. Donc c'est pour ça que je vais me retrouver. Par exemple, ce matin, je me suis retrouvé deux fois à la semaine de la critique, et ça tombait bien parce que c'était deux films formidables. Et cet après-midi, j'ai enfin vu un film de la compétition, un film japonais, mais un petit peu parce que c'est ce que j'ai pu avoir pour ce premier jour. Parce qu'il y a des films, il y a quand même des jours où il y a énormément de monde à Cannes, et ça commence à partir de demain, c'est un jour férié.
Et oui.
Vendredi, samedi, dimanche. Là, c'est le très gros week-end où il y a le plus de monde. C'est le moment le plus difficile pour pouvoir avoir des séances, en fait.
Est-ce que c'est le même site qui permet de réserver les places pour la sélection officielle et pour les sections parallèles ?
Tout à fait. C'est le même site, avec toutes les séances possibles, que ce soit à la salle de prestige où sont projetés les films de la compétition officielle, au Miramar où sont projetés les films de la semaine de la critique. C'est le même site, en fait. Donc, en fait, c'est très pratique parce qu'effectivement, tout est à réserver comme ça, au même endroit. Voilà.
Guillaume Sidom a une question pour vous, Fred.
Mm-hmm. Bonsoir Fred, juste une question un peu d'ordre pratique, mais l'accréditation, vous la demandez parce que vous êtes dans un organe de presse ou en tant que festivalier, comment ça se passe au niveau pratique ?
Alors moi, j'ai la chance de travailler dans le milieu, je travaille pour la télé, donc c'est grâce à mon boulot que j'ai réussi à avoir une accréditation. À une époque, je travaillais avec des journalistes, donc j'ai pu avoir une accrédite presse, qui est quand même le top. Avec la crête presse, on rentre partout. Et il y a à une époque aussi, lorsque j'étais moins chanceux, j'ai pu avoir une accrède qu'on appelle la crête cinéphile. En fait, il faut faire une demande et on remplit un dossier. Il faut prouver qu'on est cinéphile, qu'on est passionné, et on peut effectivement être crédité de cette accréditation cinéphile. Alors évidemment, on rentre moins facilement qu'avec une accrète professionnelle ou une accrète presse, mais quand même, c'est possible de voir même des films de la compétition.
Du coup, il y a beaucoup d'attentes pour certains films, j'imagine.
Vous voulez dire au niveau des films prestigieux ?
Oui.
Ouais. Oui, forcément. Quand on a un Almodovar en sélection comme cette année, ou quoi que le film sort en même temps en salle, celui-là il va forcément être très prisé. On a le nouveau film de Janeiro qui avait fait Je vais rester toujours au visage, le nouveau film de Lucas Dont qui avait fait Close il y a quelques années,
très réussi.
Rodrigo Sorogoyen aussi, moi j'adore, ce réalisateur espagnol qui avait fait Asbestas. Oui. Donc effectivement, c'est cette année il y a beaucoup de grands noms Donc c'est toujours au milieu de festival là, tu vois. Au début comme ça là, c'est des films plus confidentiels. Et en milieu de festival là, la programmateur se lâche en fait.
C'est là où commencent à sortir les films dont on peut présager de leur présence au palmarès, non ?
Oui, bah il y a des surprises, hein.
Oui, bah heureusement.
Ouais, je me souviens que le film entre les murs, je crois, de Laurent Canté était passé le dernier jour à la dernière séance. Mais que le film roumain, d'ailleurs, Christian Mungiu a un film aussi cette année en compétition, qui s'appelait 4 mois, 3 semaines et 2 jours, qui était le premier film projeté. Donc en fait, il n'y a pas de règle.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous l'avez abordé un peu, Fred. Est-ce qu'il y a des films que vous attendez, quelles que soient les sélections, que vous avez peut-être hâte de voir?
Oui et non, parce que effectivement les films que j'attends le plus, ils sortent en salle en même temps. Donc voilà, donc j'irai voir sur Paris. Hein. Rodrigo Sorogoyen, il sort en même temps.
Vendredi, je crois. Vendredi ou samedi.
Almodovar, c'est la semaine prochaine. Donc voilà, il y a 3-4 films. La Vénus électrique qui était passée en ouverture, je le verrai à Paris. Il y a pas d'urgence. Moi, j'avais pas trop d'attentes cette année. C'est vraiment une année découverte. C'est une année, où je vais piocher les films à droite à gauche. Il y a pas de réalisateur culte dont j'attends le film avec impatience, quoi.
Fred Saval, merci d'avoir été avec nous. Au débeauté comme ça, je vous propose, si vous nous le direz, si vous êtes dispo, de nous dire le 27 mai ce que vous avez pensé de tous les films que vous avez vus et du palmarès.
Oui, pourquoi pas. Ah ouais.
Eh bien, le rendez-vous est pris. En tout cas, merci Fred Saval. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine là-bas, dans les salles et sur la Croisette.
Merci beaucoup.
De rien. Et on écoute, pour vous raccompagner, un extrait de la bande son qui accompagne l'arrivée des maîtres et des maîtresses de cérémonie quand ça se passe sur la scène du grand auditorium Louis Lumière. Merci encore, Fred Saval.
Merci, bonne soirée.
Au revoir. Savez-vous d'où est extrait cette musique qui fait bien cérémonieuse? C'est amusant, c'est un film de 88. C'est le petit dinosaure et la vallée des merveilles, mais oui.
Ah oui.
Oui. C'est la musique de fin, c'est le final. Voilà. Comme quoi, tout peut illustrer ce qui se passe à Cannes. Tout de suite, l'actualité de la semaine reprend ses droits. Avec vous, Laurent. Et avec l'ouvreuse, bien sûr.
Bien sûr. À l'affiche cannoise cette semaine, La Vénus électrique, le nouveau film de Pierre Salvadori avec Pio Marmaille, Anaïs de Moustier et Gilles Lelouch. Ce film a été présenté hors compétition hier au Festival de Cannes et en a fait l'ouverture et il est visible dès ce jour partout en France. Nous sommes à Paris en 1928. Antoine Balestro, un jeune peintre en vogue, n'arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et il désespère Armand, son galeriste. Et un soir d'ivresse, Antoine tente d'entrer en contact avec sa femme par l'intermédiaire d'une voyante. Et sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s'est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l'imposture et rapidement, secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Et peu à peu, Antoine va retrouver l'inspiration. Mais pour Suzanne, les choses se compliquent alors qu'elle tombe doucement amoureuse de l'homme qu'elle manipule. Encore une comédie française en ouverture du Festival de Cannes. Et oui, mais pas tout à fait, ou du moins, si Salvadori finit bien par livrer une reconstitution du Paris des années folles, plastiquement assez proche du Clapiche avec la venue de l'avenir, son scénario vise une sophistication plutôt héritée de la comédie hollywoodienne des années 30 et 40. C'est un film où chacun réécrit à tour de rôle la trame des événements, les fausses séances médiumniques se télescopent alors que des flashbacks épousent le point de vue de la morte, de sorte à mettre Antoine à la croisée de deux regards féminins qui tentent peu à peu à se confondre. Tout le monde se ment et joue un double jeu, mais le spectacle comme le mensonge devient la condition de l'avènement d'une vérité émotionnelle. Or la promesse du spectacle est d'ailleurs simple, comme l'affirme Titus, celui qui manigance cette supercherie supercherie en coulisses. Ici, ni magie, ni illusion, point de monstre, ni de colosse, juste de l'émotion, des sensations. Donc, vous l'avez compris, il y a de l'art, du mensonge, de la manipulation, de l'argent, de l'amour, électrique bien sûr, dans l'air. Et en quelques secondes, donc voilà le programme de cette Vénus électrique. L'intrigue est parfaite, hein, vraiment pour livrer un amusant vaudeville, avec son lot bien sûr de quiproquos, au cœur d'une intrigue romantique, bienveillante et légère. Et d'une certaine façon, la Vénus électrique réussit parfaitement son coup dans le genre. Le réalisateur des Apprentis en évite la superficialité grâce à une écriture plus affinée et jouant justement sur plusieurs tableaux pour élever sa comédie. Bien qu'il soit peut-être un peu trop long, 2 heures, peut-être qu'une heure 40, 1h45 aurait sans doute suffi, et que son récit aurait gagné à être légèrement resserré pour donner un peu plus de rythme à l'ensemble, la Vénus électrique est vraiment un vrai plaisir de cinéma. Petite revue de presse sur ce film. La Vénus électrique est une comédie emballante sur l'illusion, le mensonge, la croyance, selon Isabelle Danel de Bande à Part. Cinéma teaser, bien aimé aussi, sous la plume de Renan Crowe. Une fantaisie mélancolique, le Pierre Salvadori nouveau ausculte la splendeur et les misères de l'amour fou, le tout mené par un quatuor parfait. Petit bémol pour Criticat.com, dommage que la dynamique au cœur du film se dilapide dans un horizon essentiellement scénaristique. La vie est un roman et le cinéma de Salvadori, derrière ses aspirations visuelles, tient davantage de la littérature. À l'affiche cannoise.
Guillaume voulait ajouter son avis.
Je voulais donner mon avis en quelques Allez-y. Instants. Merci, j'ai beaucoup aimé le film. Hein. Une comédie romantique subtile, vous l'avez dit, hein, Laurent, entre rire et larmes, très finement écrite, avec une mécanique d'haute précision scénaristique. J'ai trouvé la question du double, vous l'avez dit, celle du deuil aussi, hein, du pouvoir réparateur, sans doute de l'art. On est très surpris d'être ému. Et le personnage de Suzanne, hein, la fausse voyante, est un fil conducteur, mais aussi peut-être un corps conducteur d'électricité, d'amour. On sait où on va, mais la manière d'y aller fait notre bonheur de spectateur. La plus belle, peut-être, surprise du film pour moi, c'est Gilles Lellouche. Il m'a beaucoup ému dans un registre de confident, hein, et j'ai succombé aussi au coup de foudre.
Et les décors, la reconstitution est vraiment très très soignée. C'est vraiment, il y a du budget. L'affiche cannoise continue avec L'abandon de Vincent Garenc. Ce film retrace les 11 derniers jours de Samuel Paty. Vous pouvez le voir au cinéma Pax à Lourdes. Demain, donc jeudi 14 mai, sort à Cannes le nouveau film d'Ashgar Faradi, Histoire parallèle, avec Isabelle Huppert et Vincent Cassel. Et vous pourrez aussi le voir à Toulouse, à l'ABC. Même chose pour le nouveau Rodrigo Sorogoyen, Lettre aimée, avec Javier Bardem, qui sort le samedi 16 mai, et que vous pourrez voir aussi, si vous êtes à Toulouse, à l'American Cosmographe. L'affiche classique de la semaine, on parle d'Élise sous emprise, le premier film de Marie Raymond avec Marie Raymond, José Garcia et Gustave Kervern. Rien ne va plus dans la vie d'Élise. Engluée dans une relation toxique avec Léopold, elle se retrouve propulsée à la tête d'une troupe de théâtre suite à la mort soudaine du metteur en scène dont elle était l'assistante. Et submergée par des crises de panique, Élise vacille. Mais peut-être est-ce dans cette confusion qu'elle parviendra à se libérer de ses emprises et à reprendre le contrôle de sa propre vie. Pour son premier long métrage de réalisatrice, la comédienne Marie Raymond a choisi de traiter par le prisme de la comédie le sujet douloureux de la charge mentale des femmes et son corollaire, la sensation d'imposture à laquelle elle donne naissance dans un monde souvent dominé par un masculin peu partageur. Elle incarne elle-même son héroïne, une jeune femme évoluant dans le milieu du théâtre, engluée donc dans cette relation toxique avec un metteur en scène. Oui, Marie, vous avez rencontré la réalisatrice Marie Raymond pour son premier film.
Oui, Marie Raymond, son premier film, elle est avant tout actrice et metteuse en scène de théâtre, et c'est son premier film, vous l'avez dit, et elle était présente à Muret au Festival international du film de Muret. Et évidemment, un sujet pareil, vous allez me dire, je pose toujours les mêmes questions, mais oui, mais comment ça vient? Comment on en vient à parler d'une histoire comme celle-là? D'où va-t-on chercher l'inspiration, s'il y en a une, pour raconter l'histoire? Quand je dis s'il y en a une, il y en a forcément une. Écoutez la réponse de Marie Raymond.
C'est d'abord des productrices qui sont venues me proposer, me demander si j'avais un sujet, envie d'écrire pour le cinéma. Ça faisait suite à des spectacles qu'elles avaient vus. Quand je leur ai dit oui, c'est que j'avais en tête cette histoire de symptômes que, pour le coup, moi, j'avais traversé quelques années avant. J'avais eu la chance que, pour moi, ce soit sur une période assez courte, mais malgré tout, je me suis dit, bah ça, c'est tellement sur des sensations qui ne sont pas visibles parler autrui et ça met tellement dans des situations pas du tout rationnelles, absurdes. Et donc c'est quelque chose que je trouvais intéressant pour le cinéma. Ça, c'était l'élément réel. Ensuite, j'ai construit une fiction autour, avec cette histoire du metteur en scène qui meurt. J'avais simplement envie que le personnage soit plongé dans une situation où elle soit obligée d'avoir à gérer une équipe et qu'on la mette en lumière à un moment où elle aurait envie de rester sous la couette et ne plus bouger de chez elle. Elle a l'impression que le monde est un danger permanent, en fait. Donc je me suis dit, bah tiens, on va mêler ces deux moments.
Vous voyez que finalement, il vient toujours quelque chose de soi, de quelque chose qu'on a vécu. C'est pas la première réalisatrice ou le premier réalisateur à nous raconter ça, mais en tout cas, ça fait toujours partie. Évidemment, on va puiser dans ce qu'on a en soi pour raconter une histoire. Et justement, Marie Raymond s'inscrit bien dans la veine de ce mot valise qu'on a fabriqué, la dramédie entre drame et comédie. On est sur le film et il y a jamais de risque de disparition d'un personnage et du sien en particulier, parce que c'est elle qui interprète le rôle principal. Élise Darchène, c'est Marie Raymond. Il y a une belle distribution à ses côtés. Il y a l'amant toxique, pervers narcissique, c'est José Garcia, ça lui va comme un gant. On aime le détester. Alors là, il est parfait dans ce rôle-là. L'ami, c'est Olivia Cotte. Oui, on aime. Elle est parfaite en amie. Et puis, le type rêveur dont elle va tomber petit à petit amoureuse et lui aussi, il va se passer quelque chose entre eux, bah c'est évidemment Gustave Kervern. Ça pouvait être que lui, et ça marche bien. Alors elle explore des déséquilibres émotionnels, des mécanismes d'emprise, et elle s'en sort plutôt bien pour un premier film. Il est regrettable qu'il y ait peu d'écran pour le voir.
Oui, petite revue de presse sur ce film. Succession de scénettes prêtant très souvent sourire, Élise sous emprise à la légèreté des programmes courts selon Première. Délicieux selon Femme Actuelle. Oui, messieurs, je lis Femme Actuelle, car je suis un homme actuel. Les Fils du cinéma, petit bémol, un film aussi attachant que son héroïne, en dépit de maladresses scénaristiques handicapantes. À l'affiche aussi de cette semaine, on peut voir Ella McKay de James Brooks. Le film d'horreur de la semaine, ce sera Obsession de Curry Barker, l'histoire d'un jeune homme qui met la main sur un objet capable d'exaucer des vœux. C'est votre rêve, ça, Guillaume.
C'est mon rêve.
Un film d'animation, Junk World de Takahide Ori, qu'on peut voir l'American Cosmograph. Un autre film d'animé fantastique, Ciao, de Yasuri Aoki, qu'on peut voir au CG à Montauban-le-Paris, au VO à Muret ou à l'ABC à Toulouse. On peut voir un documentaire 30 de Sébastien Free. Il est libre, Sébastien Free. Et de Jérémy Levipon. Et pour, si vous aimez le hard rock, Iron Maiden, Burning Ambition, un documentaire de Malcolm Vainville, que vous pouvez voir au Pâté la Belge, au Grand Palais à Cahors, au CGR Blagnac, ou au Kinépolis Fenouillé.
Fallait bien ce titre des Shocking Blue sorti en 1969 pour qualifier la Vénus électrique. Alors vous me direz, ça n'a pas grand chose à voir 1928, oui, mais cette musique n'apparaît pas en plein milieu du film, mais simplement sur le tout dernier plan du film avant le générique de fin, puisqu'on l'entend dans son intégralité, cette chanson-là. Et sans plus attendre, on retrouve notre homme de loi des séries qui a ouvert le tribunal pour nous et qui va nous parler ce soir de la seconde vie des séries grâce à TikTok. Tout de suite, c'est Grégory Com.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, ce soir, je suis obligé de constater quelque chose. Je suis vieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on m'envoie, mes jeunes collègues, des boucles TikTok. Et je ne comprends rien à TikTok. Voilà, je le dis clairement, donc je suis vieux. Et quand je leur parle de Facebook, ils me regardent, mes jeunes collègues, avec effarement en me disant mais tu es vieux. Et en fait, pourquoi ils m'envoient des boucles TikTok? C'est parce qu'ils me disent « Ah, il y a une très vieille série ». Qui est en train d'avoir un peu un retour de jeunesse sur TikTok, où les gens découvrent et trouvent ça hallucinant. Alors moi, quand on me dit très vieille série, je pense à La Petite Maison dans la Prairie, voilà, je pense à la limite à Agence Touriste, et encore, et on me dit non, c'est Lost. Donc déjà, ça me fait mal de savoir que Lost est une série vieille pour la nouvelle génération. Mais c'est vrai que Lost est une série qui date. Et je voulais revenir sur ce phénomène, parce que justement, beaucoup de gens la découvrent et trouvent à quel point elle est extraordinaire. Lost, c'était quoi comme série? C'était une série où Lost est disparu, c'était la traduction française, où il y avait un crash d'avion, d'ailleurs avec un épisode pilote spectaculaire qui avait coûté très très cher, et des survivants se retrouvent sur une île perdue, aux nombreux mystères, et ils vont partir, et en fait on va avoir d'un côté le côté survivor, le côté où ils vont devoir s'organiser pour survivre dans ce milieu hostile, mais aussi le côté enquête, où ils vont partir sur l'île pour découvrir ses secrets et des choses potentiellement paranormales. L'autre point le plus important, et c'était le sel même de cette série, c'est le fait que chaque épisode revenait sur le passé d'un ou plusieurs personnages par le biais de flashbacks. Et donc l'épisode était en fait en deux temporalités, la découverte de l'île et un flashback sur un personnage qui affrontait souvent son passé et des dilemmes moraux. Et là, la série, elle était exceptionnelle pour ça. C'est-à-dire qu'elle savait mettre en perspective ce que vivait la personne dans les deux timelines. Et c'est ça qui était très très bien écrit. Lost, ça a été aussi une promesse. C'était la promesse de grands mystères qui allaient trouver leur réponse au fur et à mesure. Alors soyons clairs, la première saison est exceptionnelle. Il y a quelques petites longueurs, mais elle est exceptionnelle. Elle fait partie du top des meilleures premières saisons, toutes séries télé confondues. Les personnages sont divers et variés, partant du médecin héros à l'héroïne secrète qui a un passé lié avec la justice, à quelqu'un, un ancien militaire de Saddam Hussein, à des frères et sœurs cachant des secrets particuliers, ou carrément un personnage John Locke ultra énigmatique qui cache un passé très torturé. Les personnages sont exceptionnels. La musique et la bande-son est génialissime et très marquée par le temps des années 2000, la fin des années 2000. Mais surtout, c'est une autre époque. C'est une époque où on découvrait les séries épisode par épisode chaque semaine et encore une époque où les grands rendez-vous séries télé se faisaient notamment sur TF1. Et c'est là où je trouve ça exceptionnel, c'est qu'à l'époque, effectivement, on se donnait rendez-vous tous autour de la télé pour regarder les épisodes et en débriefer après. Je ne dis pas qu'avoir tous les épisodes d'un coup, c'est mal comme le fait Netflix, pas du tout. Mais c'était une certaine saveur et la télé ça allait rendre hommage en fait à ces œuvres-là qui remplaçaient même parfois les films de la soirée. On voit aujourd'hui que malheureusement beaucoup de séries télé arrive sur les chaînes type TF1 et M6 après une diffusion sur les plateformes et flop, comme Bref 2, pour vous me dire, vu la qualité de Bref 2, c'est pas grave. Mais c'était vraiment une autre époque. Et effectivement, les jeunes de l'époque disent, mais attention, mais quand les choses se terminaient, les cliffhangers de fin et qui faisaient qu'on ne pouvait pas continuer sur l'épisode suivant, les gens étaient dingues. Oui, on était dingues. Et comme on avait au final peu de séries, on en parlait pendant des mois et des mois jusqu'à ce que la série revienne. L'envers du décor, c'est que parfois, quand la série revenait, c'est le cas de Lost, il y avait déception et effectivement la série se terminait avec quelques réponses mais pas énormément et parfois même des saisons un petit peu décousues et de qualité assez inégale. Mais en ayant revu cette série et sans le côté hype de l'époque, de dire « Ah, j'espère que je vais avoir encore mieux, encore mieux », elle reste quand même très très bonne, jusqu'à la fin. Et la fin, j'ai fait un petit peu, je dirais, le deuil de la fin, qui n'est pas, qui est loin d'être parfaite, mais qui est quand même assez émotionnelle et assez touchante, et qui est finalement n'est pas si mauvaise que ça. Certes, elle ne répond pas à tout, elle donne quelques réponses, elle donne même une ouverture sur le monde de Lost assez grande, qui aurait pu être intéressante pour des spin-offs, j'espère peut-être qu'un jour on reviendra dans cet univers-là. Elle répond à certaines questions sur les personnages, et surtout, elle donne, je pense, ce qu'on recherche dans ce genre d'aventure, c'est quand on termine la série, on se dit « J'ai quand même vécu quelque chose avec ces personnages-là et ils vont me manquer. » Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de séries qui arrivent à nous faire ressentir ça. Et Lost a toujours ce pouvoir-là et au final, quand on remet la série, on est content de les retrouver. Est-ce que Lost est une série parfaite ? Non. Est-ce qu'elle est la marque de son époque ? Oui, parce qu'elle a lancé ses séries à mystère, dont une de ses héritières est la série From, attention, plutôt horrifique, hein, mais qui est pareil sur un sujet de mystère, mais qui, elle, a eu l'intelligence de dire « Je serai en 5 saisons et ma fin est déjà écrite, donc ça sera logique. » Est-ce qu'il faut la revoir aujourd'hui ? Clairement, je vous le conseille. Clairement, je vous le conseille parce que ça reste déjà un monument de l'histoire des séries télé et c'est toujours aussi passionnant. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, votre temps est précieux et je vous conseille vraiment de le passer à revisionner Lost, qui est un monument du monde des séries télé.
Eh bien, c'était notre homme de loi des séries, Grégory Combe, dont on vient d'apprendre qu'il était vieux. Il était vieux. Eh oui, tout arrive.
Il nous l'avait pas dit.
Non.
Juste, est-ce qu'il a précisé sur quelle plateforme ou chaîne on pouvait le regarder ?
Il ne l'a pas dit précisément.
Oh, ça se trouve en DVD.
Voilà.
Exactement.
Ouais, on se sera mis en DVD. Ouais.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien.
Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal?
Pourquoi pas?
Un monument du cinéma français, Palme d'Or à Cannes en 1966. D'ailleurs, Claude Lelouch était dans l'assistance hier soir, dans la cérémonie d'ouverture. Eh oui, et vous savez que le Pâté Wilson vous permet de revoir quelques Palmes d'Or. Eh bien, celle-là en fait partie, un homme et une femme, samedi 16 mai à 20h, au cinéma Pâté Wilson. Sinon, vous irez revoir non pas des films récompensés à Cannes, mais des films récompensés aux Oscars. Et il y en a une belle brochette. Écoutez plutôt, dans l'ordre d'apparition, Annie Hall de Woody Allen, un film de 77, magnifique Woody Allen. C'est demain, jeudi 14 mai à 19h30. Et puis il y a l'incroyable Voyage au bout de l'enfer, un film de 78 de Michael Cimino. Alors là, il faudra attendre le dimanche 17 mai à 13h30 pour le voir. Le film de Robert Redford, Des gens comme les autres. Son premier film, magnifique aussi, c'est à voir lundi 18 mai à 19h30, et puis on en a déjà parlé, Sidney Pollack, Out of Africa, alors là c'est en mardi, il faudra attendre donc le mardi 19 mai à 17h30, tous ces films, bien entendu, sont proposés dans leur version original. Un petit tour vite fait à la Cinémathèque pour rester dans cette ambiance de film qui secouent, qui font du bien ou pas. En tout cas, celui-là, je sais pas, les spectateurs, quand ils l'ont vu à l'époque, et c'était en 1976, Carrie, qui a rendu célèbre Brian De Palma, d'après Stephen King. Oui. Il s'appuyait sur du lourd, et il faut dire que le film est assez extraordinaire.
Oui, assez étonnant, et c'est le film préféré des dentistes.
Brian De Palma.
Brian. Oui, Brian De Palma. de Palma avec Sissi Spacek, magnifique. Et puis un débutant, John Travolta.
Ah oui, exact.
c'est le petit copain de la méchante, vous savez.
Avant qu'il se mette à danser.
Avant qu'il se mette à danser. Il finit très très mal d'ailleurs dans le film.
Il fallait pas énerver
Carrie. Toujours à la Cinémathèque. Alors Carrie, vous pourrez le voir vendredi 15 mai à 21h. Et puis toujours à la Cinémathèque. Alors la Carrie, c'est dans le cycle L'Histoire à venir. C'est très particulier. C'est une programmation de 3 jours. Allez sur le site de la Cinémathèque pour en savoir plus. lacinémathèquedetoulouse.com. Sinon, dans le cycle Billy Wilder, un film de 39, magnifique. Quand j'ai vu ce film-là, j'ai chaviré. Parce qu'il y a...
Vous étiez en bateau?
Voilà, exactement. Greta Garbo, c'est un film de 39. C'est Ninotchka, ou comment une stalinienne... arrive d'Union soviétique pour voir ce qui se passe à Paris avec les envoyés de l'Union soviétique. Ouais. Et ça marche pas très bien
ça
là-bas.
Il faut dire que
eux, ils s'étaient habitués à la vie occidentale et donc dans cette comédie, comment cette femme très rigide au contact d'un homme évidemment séduisant et puis de ses deux compères va peu à peu tourner. C'est Lubitsch donc. Aidé par Billy Wilder, c'est pour ça qu'il est dans le cycle de Billy Wilder, c'est lui qui a écrit le scénario, dimanche 17 mai à 17h. Et juste, alors je ne résiste pas, à vous faire écouter ça, si je me trompe pas.
Et maintenant une petite colle, juste pour rire.
On est arrivé.
Qu'est-ce qui m'a donné le plus de mal d'après vous, la Tour Eiffel ou Concorde?
On est arrivé.
Ah oui, déjà, on n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Allô, passez-moi ta brochure, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre, j'en tiens.
Comment est-il?
Un champion du monde.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons.
En 1998, Francis Weber adaptait sa pièce à succès Le Dîner de cons au cinéma et il cartonnait avec Thierry Lhermitte en tête, mais c'est surtout Jacques Villeret, dont on retient la performance, et Francis Huster, le copain. Le dîner de con, bon, il n'y a plus grand chose à dire. Tout est dit, on se dépêche. Le dîner de con, dimanche 17 mai à 19h, c'est au Pâté la Beige. Il y a tout Top Gun, les deux, qui ressortent pour faire plaisir à tout le monde. Et ils ressortent, alors, ils sont proposés tous les jours... dans des salles comme le Pâté Wilson, le CGR Montauban, ou bien à Blagnac, le CGR Blagnac, voilà, allez là-bas. Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, c'est aussi au Pâté la Beige, et pour lundi 18 mai à 19h30. Voilà pour le grand écran. Pour le petit, c'est avec vous, Laurent.
Le cinéma, la télévision, on garantit sans tapis rouge. Ça commence dès ce soir sur Arte à 21h avec Les Graines du Figuier Sauvage de l'Iranien Mohamed Rasoulov, à voir absolument. Vendredi, il faudra faire des choix. Sur France 5, vous aurez à 21h La Zone d'Intérêt de Jonathan Glazer, une œuvre virtuose et glaçante sur Auschwitz. Ou alors, il faudra Mustang, le film de Denis Ganzer-Guven. Ils sont ces 5 sœurs orphelines qui veulent vivre leur vie de jeune fille. Samedi, France 4, 21h, ce sera The Rider de Chloé Zhao, qui est à Cannes en ce moment, l'histoire de ce jeune cow-boy qui devient paralysé suite à un accident. Dimanche, là aussi, il faudra faire des choix. Sur France 2, à 21h, ce sera Anatomie d'une chute de Justine Trier, qui a eu la Palme d'Or Festival de Cannes. Ou alors, sur Arte, à 21h, on pourra revoir The Big Lebowski, des frères Coen, là aussi, Palme d'Or. Et puis, on saute directement lundi, France 4, à 21h, on pourra revoir La Haine de Mathieu Kassovitz. Le conseil de lecture, ce sera La Grande Histoire du Festival de Cannes de Frédéric Vidal. Cet album est une flânerie qui vous invite à suivre un festival imaginaire qui serait un patchwork de tous les festivals passés. Un livre que vous retrouvez aux édition Archipel pour 29,95 €. Et Guillaume, je vous passe la parole.
Merci, vous avez été parfait. Le conseil Blu-ray, Le Tueur frappe 3 fois, film signé Massimo Dallamano de 1971. L'inspecteur Franz Berlon est sous la pression de sa hiérarchie, enquêtant sur un vaste trafic de drogue. Il voit tous les témoins potentiels assassinés par un mystérieux tueur qui ne parvient pas à arrêter. Début d'un terrible engrenage, à retrouver donc ce vendredi 15 mai en édition collector Blu-ray, DVD, livret et bonus nombreux. pour 24,90€ chez Rémini Édition. Tenez, je vous l'offre, Laurent.
Ah, merci Guillaume, c'est gentil.
Cannes est un endroit où une fois par an, vous rechargez la batterie que chacun a dans nous, tous les artistes, mais aussi les journalistes, le public, où tout d'un coup, en voyant les plus beaux films du monde, on a envie soit de faire du cinéma, soit de faire des films, soit d'en voir, soit d'en parler. Tout se passe de manière assez fébrile, où on est pendant 12 jours dans une atmosphère de cinéma.
C'était Gilles Jacob qui a été délégué général pendant de nombreuses années du Festival de Cannes avant de devenir président, puis de passer la main et prendre la retraite. Et là, c'est la musique du film de Théo Angelopoulos, L'éternité et un jour, le thème signé Eleni Kharandrou, et le film avait été Palme d'Or en 1998. Laurent, vos coups de cœur.
Les coups de cœur, ce sera La Vénus électrique, L'être aimé qui sort samedi, hein, et Iron Maiden.
La Vénus électrique, Élise sous emprise, Obsession, Le salaire de la peur sur France.tv et la 79e édition du Festival de Cannes.
La Vénus électrique, L'abandon, Iron Maiden, of course, et la 79e édition du Festival de Cannes. Merci messieurs.
Merci.
Bonne soirée, à mercredi.
On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nathalie Cardon à 20h. Salut.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.